Bienvenue dans Les Grains de Sable, la capsule qui égrène le Sandman de Neil Gaiman. Je suis Jean et j'ai lu le Sandman en entier et je suis accompagné de Zef qui lui au contraire va le découvrir à mesure. Et donc ça nous prendra le temps que ça nous prendra, mais l'idée c'est de retraverser toute l'œuvre dans son entier. Le Sandman, donc, c'est une série à l'origine en 75 issues qui a été publiée de 1989 à 1996 et elle est donc écrite par Neil Gaiman qui à l'époque fait partie du train d'auteurs anglais que l'éditrice Karen Berger était venue chercher pour relancer DC, pour amener du sang neuf dans le comics. C'est à cette occasion que sont arrivés notamment Alan Moore qui a travaillé sur Swamp Thing et Grant Morrison sur Animal Man. Et c'est de là qu'allait naître le label Vertigo au sein de DC, le label dit adulte de DC Comics. On a proposé à ces différents auteurs et donc à Neil Gaiman de reprendre des vieux personnages de fond de catalogue et ils avaient carte blanche pour en faire ce qu'ils voulaient. Et donc Neil Gaiman a choisi le Sandman qui était un vieux personnage créé par Joe Simon et Michael Fleischer et dessiné par Jack Kirby. Un personnage qui était un super-héros casqué avec un pistolet qui envoyait du sable, comme le marchand de sable, pour endormir les méchants. Et de ce personnage, Neil Gaiman n'a gardé que le nom, puisque en fait, il a créé un tout autre personnage à partir du nom. Même si là, on le verra lié quand même au personnage originel. Donc aujourd'hui, pour ce premier numéro, parce qu'il y a des choses à dire, parce qu'on a promis à nos camarades de Comics Outcast de ne pas dépasser les 12 minutes, on va vous parler simplement du chapitre 1 de l'issue 1 qui s'intitule Le sommeil du juste et qui est illustré par Sam Case et Mike Dringenberg. Donc cette issue, c'est une issue double qui fait 40 pages. Elle débute en juin 1916 en Angleterre et on découvre le mage Roderick Burgess qui est un sorcier et qui veut emprisonner la mort. Parce qu'il veut l'immortalité.
Ouais, alors même avant de commencer l'issue, j'ai deux choses à dire.
Vas-y.
C'est assez folle. Il y a deux... Neil Gaiman, alors je ne sais pas si c'est lui ou c'est l'éditeur qui met ça, mais en intro, avant l'issue, il y a deux citations. Une première citation qui est du livre de Job, chapitre 28, versets 12, 13 et 18, qui, alors je l'ai en anglais là, mais je vais essayer de la traduire à la volée, qui dit où est-ce qu'on trouve la sagesse et où est-ce qu'on place la compréhension. Et l'homme cherche le prix de la connaissance et il sait qu'il ne la trouvera jamais ni sur Terre et que son prix est le prix de la sagesse est bien au-delà de tous les rubis et diamants qu'il peut trouver. Et en fait, je trouve ça assez intéressant parce que du coup, on a en fait une forme de présage de ce qui va arriver, surtout ce qui concerne du coup la connaissance, la compréhension et les conséquences divines ou quasi-divines qui vont être liées à tout ça. Et la deuxième citation qu'il y a, elle est juste marrante parce que c'est dit, la lettre D is for lots of things, donc et pour concerne beaucoup de choses. Et du coup, dit parce que en anglais, du coup, le personnage s'appelle pas Rêve mais Dream. Et tous ses frères et sœurs, dit Endless, seront Desire, Despair et ainsi de suite, donc tous des D. Et ça vient de John D, D-E-E, qui se prononce D du coup, ce qui je trouve ça assez mignon comme placement. Et tu fais, t'as commencé tout de suite en parlant de la date, donc le 6 juin 1916, je précise juste, voilà, 6 juin 1916, donc le 6 de fin, voilà, c'était juste pour le petit détail que j'ai remarqué
en lisant. Je l'avais pas du tout vu.
Ouais, c'est le petit plaisir.
Voilà. Le petit plaisir. Donc en juin 1916, le mage Roderick Burgess veut emprisonner la mort. On le voit faire tout un rituel et apparaît alors une silhouette casquée et encapée, mais ce n'est pas la mort, c'est son frère cadet, Morphée, le maître des rêves, le rêve, le Sandman.
Exact.
Et cette première issue va nous raconter les 70 ans de sa captivité dans la cave du mage, puis son fils, puisque au cours des 70 ans, le mage va décéder, puis il sera repris par son fils. 70 ans pendant lesquels le Sandman ne fait pour ainsi dire rien. Ouais, au grand désespoir d'ailleurs du mage qui espère toujours qu'il va lui accorder puissance, vie éternelle et autres.
Du mage et de son fils lui-même.
Et de son fils aussi.
Ça va passer de père en fils.
Qui va faire la même chose et qui va rester silencieux pendant 70 ans au point de les rendre fous.
Ouais, c'est une belle entrée en matière en fait d'un personnage qui va prendre toute sa puissance dans l'absence, parce que finalement en fait c'est presque une façon dramatique de lancer son personnage, parce que le mettre en avant en ne le faisant pas apparaître, c'est un ressort qui fait apparaître un personnage encore plus puissant, encore plus fort, parce que on sait que sa présence en fait est quasi omnubilée par tous les protagonistes qu'on va avoir. En fait, sa présence va avoir des conséquences sur le monde entier. Les gens ne vont plus dormir, ou alors s'ils vont dormir, ils vont complètement être figés dans leur rêve. À noter que le premier personnage, donc le docteur Hathaway, qui amène le bouquin nécessaire à créer ce petit enchantement, sa petite captivité, c'est le grimoire de Magdalene. Je trouve que la référence, elle est maboule. Alors Magdalene, je suis allé voir directement sur Wikipédia, qui était entre autres la première femme à témoigner de la résurrection de Jésus et du tombeau vide, entre autres, hein, parce qu'il y avait aussi la mère de Jésus. Et selon l'évangile de Marc, c'est la femme qui était chargée d'annoncer la résurrection aux apôtres, ce qui en fait une femme qui est plus citée que les apôtres eux-mêmes dans tous les évangiles. Et elle est considérée par certains évangiles comme l'apôtre des apôtres. Et en fait, du coup, ça amène cette puissance divine dans ce bouquin. Et quand on regarde le sort qui est lancé par le magistère, c'est assez maboule, en fait. Ne serait-ce que les termes qu'il utilise, déjà installent dans tout l'univers, je trouve, un effet ultra fort de créativité, de divinité, de légende, de tout ce qui va être balancé, tout ce qu'on va pouvoir voir. Enfin, on parle de plume qui a été enlevée des anges, d'une aile d'un ange directement, donc on sait que les anges peuvent exister. Il y a plein de choses qui sont assez cool là-dedans. Je trouve que l'ambiance directement, elle est assez maboule.
Et puis, justement, pendant ces 70 ans, comme tu l'as dit, le fait qu'ils soient enfermés va perturber le sommeil et les rêves de toute l'humanité. Ouais. Donc ça, on nous le dit, mais surtout, Gaiman nous le montre en s'attachant à différents destins pour illustrer ce qui se passe. On a la petite Ellie qui s'endort pour ne plus jamais se réveiller, et sauf une fois de temps en temps, une fois tous les 10 ans ou les 4-5 ans, et elle vieillit bien sûr, mais elle, chaque fois qu'elle se réveille, elle croit toujours qu'elle a 8 ans.
Ouais.
On a un jeune homme en Jamaïque qui s'appelle Daniel qui va avoir la maladie du sommeil, qui va ne plus dormir. On a un jeune poilu allemand, Stéphane Wasserman, qui va se suicider une année après la guerre parce qu'il ne dort plus. Ouais. On a le personnage d'Unity Kincaid qui est une femme qui s'endort et qui ne se réveille plus, et qui pendant toutes ces années va être violée, enceinte, accouchée, son bébé va être adopté, et tout ça sans qu'elle se réveille. Au passage, la première fois qu'on voit Unity Kincaid, on nous dit qu'elle rêve d'un homme grand, ténébreux, ses yeux brûlent comme des étoiles, et ce qui annonce le visage évidemment du Sandman, visage qu'on ne découvre que à la page 20 sur 40. Vraiment, il repousse le moment de nous faire découvrir son visage. Mais juste pour revenir sur ces différentes histoires, il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans le travail de Gaiman, qu'on voit là et qu'on reverra très souvent dans toute son œuvre et dans tout le Sandman, c'est la capacité à créer des personnages et des destins complets en quelques planches, en quelques phrases. L'histoire d'Ellie, l'histoire de Daniel, l'histoire de Stéphane, c'est quelques planches, mais c'est un destin complet qui nous est raconté en quelques pages.
Ouais, je me demandais de savoir si on allait les revoir derrière, s'il y avoir des choses qui vont être croisées. Alors, en ayant vu la série, je sais qu'il y a des choses qui vont revenir, mais de quelle manière ça allait être fait?
Si tu veux que je réponde ou pas?
Non, laisse-moi découvrir. Mais c'est intéressant que tu reviennes sur le visage de Dream qui apparaît finalement, effectivement, qui a la moitié des choux. Tout le long de cette première moitié, en fait, à chaque fois qu'on le voit apparaître, entre guillemets, en tout cas, on voit ses ravisseurs arriver, on le voit qu'à travers sa vision à lui, qui est une espèce de boule, parce qu'il est capturé dans une bulle, en fait, une forme de boule de cristal, on a l'impression qu'il les voit que par ça. Et je trouve ça intéressant. Et la première fois qu'il a qu'il parle vraiment. Enfin, j'ai l'impression qu'il parle, mais c'est là où je reviendrai sur la différence entre la série, du coup, qui me fait bien moins aimer la série, c'est que le personnage là, il est vraiment intemporel, il est vraiment pas présent. Il parle, mais il ouvre pas la bouche. J'ai l'impression qu'il communique plus ses pensées que par oral directement, et sa vision entre guillemets, ses yeux tout noirs, enfin foncés, avec deux petits bibles blancs à l'intérieur, et sa peau uniquement blanche, le rend ça le rend complètement fou, en fait. Je trouve il y a un effet rêveur, en fait, pas rêveur, mais vraiment de disparition. Je sais pas comment expliquer ça, en fait. Et il y a des planches qui sont assez maboules. La première où il disparaît dans son royaume, en fait, où il part dans les rêves pour se nourrir.
Oui, cette planche, elle est extraordinaire.
Elle est incroyable. Il y a
une espèce de vortex lumineux dans lequel il se fait aspirer. C'est une image mythique qui, je crois, moi j'ai pas regardé la série, mais qu'ils ont tenté de reproduire quasiment l'image exacte dans la série.
Pas le bon souvenir.
Série, oui, comme je disais, que moi j'ai pas voulu regarder justement parce que j'ai du mal à voir le Sandman incarné. Et notamment déjà parce qu'ils ont pas fait les yeux noirs avec le feu brillant au centre. Oui. Et c'est bien dommage. Et donc enfin d'Ishu, il se libère, et donc là on va découvrir toute sa puissance, bien qu'on le sente affaibli, il se dit affaibli, mais aussi on s'aperçoit qu'on n'a pas affaire, il faut se remettre dans l'époque, on est censé quand même plus ou moins être dans un comics de super-héros, et apparaît un personnage qui est tout sauf un super-héros. Il apparaît vraiment comme un esprit vengeur. Il est très hautain, il est très dur, et il va punir son geôlier, en l'occurrence le fils du mage d'origine, avec une punition qui est digne d'un conte de la crypte, quoi. Enfin, d'un vrai récit d'horreur. Hein. C'est le principe, c'est l'éveil éternel. Autrement dit, l'homme rêve et est basculé dans des cauchemars, et à chaque fois il se réveille, il pense être réveillé, mais en fait non, c'est un nouveau cauchemar qui continue et continue, et comprend qu'il va vivre ça pour l'éternité. C'est vraiment ça glace le sang.
Ça met d'équerre direct, hein. Ça nous montre le personnage. C'est intéressant d'ailleurs, je viens de remarquer qu'ils lui ont fait pousser les cheveux entre temps, entre les débuts de sa captivité et maintenant. Je trouve ça intéressant pour un personnage qui est censé être endless. Et tu parlais du premier Sandman,
oui,
qu'on voit apparaître, du coup. C'est un personnage que, en fait, quand je lisais les issues, on a ces autres destins dont tu parlais qui arrivent, et on a le destin de Wesley Dodds, qui en fait se transforme en Sandman lui aussi, en fait.
Oui, c'est-à-dire qu'en trois cases, il évacue et en même temps il explique son lien avec le Sandman d'origine, donc ce super-héros qui est tout à fait humain, en nous expliquant que lui aussi dormait mal finalement à cause de tous les, toute la problématique, toute la maladie du sommeil qui envahit le monde, mais qu'en rêve, il a rêvé du casque, de l'idée de devenir un super-héros casqué qui endort les méchants, et que depuis qu'il le fait dans la réalité, il dort mieux. Et voilà comment Neil Gaiman créer le lien avec le Sandman d'origine.
C'est parfait.
Et c'est en trois cases, et c'est parfait.
Et effectivement, en une issue, on a le personnage qui apparaît avec un caractère ultra fort et une quête qui se pose direct, qui va être de récupérer ses outils, son masque, sa bourse de sable et son diamant, son rubis, je crois.
Oui.
Et en fait, tout ça, en fait, on les voit en quelques cases disparaître au début quand les gens s'en emparent. On voit quelqu'un la voler tout ça pour essayer de se faire un peu de thune et l'échanger à un démon, on sait pas encore qui, j'imagine que ce sera dévoilé par la suite, et en fait on sait d'où Morphée va devoir partir pour pouvoir faire sa quête. Et je trouve qu'en 40 pages, putain, on a déjà tout un univers, un
c'est
personnage
riche, hein,
qui est ouf, et ça fait presque un peu personnage de super-héros. Tu sais, tu commences un jeu de super-héros un peu RPG, t'as un personnage qui est surpuissant, et en fait on a toujours mal à expliquer comment il revient niveau 1 et il va devoir regagner en fait ses pouvoirs. En fait, on est vraiment dans ce trope là, mais c'est super bien fait. En fait, il y a un effet ultra fort, et j'ai hâte de découvrir cette suite.
Eh ben, très bien, donc on continue.
Ah ben oui, de ouf.
Eh ben, à la prochaine alors.
Allez, ciao. Les gars.